Bonjour mes frères et sœurs, là nous allons commencer une nouvelle série, on le fera que le vendredi, et encore peut-être pas tous les vendredis parce que ça risque d'être un peu long. Je voudrais aborder la lettre aux Hébreux, parce que c'est une lettre très importante, surtout dans notre époque de confusion. La confusion est partout, aussi bien dans la politique que dans la religion, que dans les finances, on ne sait plus où on en est. Avec les informations, il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent cela, on ne sait plus. Vous allez sur YouTube, vous entendez des trucs qui sont faux mais qui paraissent vrais. Alors il faut, surtout pour les choses de Dieu, il faut vraiment avoir la certitude qu'on est dans le vrai. Et pour avoir la certitude d'être dans le vrai, ben le meilleur moyen, c'est de revenir aux originaux, c'est-à-dire la Bible. Dans la tradition religieuse, il y a de bonnes choses, il y a de bonnes choses dans toutes les traditions, mais c'est surtout la Bible qui est notre fondement, qui est le fondement de notre foi. Donc, on va étudier cette lettre aux Hébreux. On commence ce soir, ça ne va pas être trop long, vous inquiétez pas. Seigneur, je te prie de m'aider à donner cet enseignement le plus clairement possible et aide-moi à ne pas blesser les gens, mais à leur dire la vérité telle qu'elle est et qu'ils ne soient pas blessés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, on va lire Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. Je vais vous faire la lecture dans la Bible, le Nouveau Testament, avec Psaume et Proverbes, traduction en français de la Bible King James. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé. Alors voilà ce que dit Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères, par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Amen. Alors, je voudrais donc, pour ma part, vous dire que je crois que cette épître aux Hébreux, elle vient de Paul. Bon, ça n'engage que moi, mais je crois que ça vient de Paul. C'est son style d'écriture, c'est sa façon de parler, et puis en fait, parmi tous les apôtres de l'époque, bien celui qui était le plus versé dans les choses du judaïsme, puisqu'il avait été pharisien lui-même, c'est-à-dire quelqu'un d'important dans cette religion. En tout cas, cette lettre aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui étaient sortis du judaïsme, mais qui restaient encore attachés au judaïsme. En fait, ils ne voyaient pas la réalisation de leur espérance en Christ comme une réalisation de la venue d'un Messie terrestre. Ils ne voyaient pas que Jésus était venu pour sauver Israël, pour chasser les Romains. Enfin bon, ils étaient dans une confusion. Et en plus, ils se voyaient en danger d'être persécutés parce que c'était une nouvelle secte qui apparaissait, et puis les Romains n'étaient pas trop d'accord, et puis alors les Juifs non plus, les Juifs ultra-religieux. Donc ça les décourageait, ils étaient tentés de retourner en arrière vers l'ancien ordre des choses, c'est-à-dire leur religion judaïque, tout en aimant bien Jésus, vous voyez. Alors, par cette épître, le Saint-Esprit leur fait voir que cet ordre de choses qu'ils avaient pratiqué, vécu autrefois dans le judaïsme, ce n'était que transitoire. Et que le christianisme, le nouvel ordre des choses, était avant tout céleste et éternel. Ça ne veut pas dire que le christianisme ne concerne pas les choses de la terre, mais disons que Jésus n'est pas là pour se mêler de la politique. Bien que, on peut prier pour nos politiciens, et je vous encourage à le faire en ce moment, à prier pour ceux qui nous gouvernent, la Bible nous dit de le faire. Alors Paul nous explique que les deux systèmes avaient été établis par Dieu, aussi bien la religion judaïque que le christianisme, et que, en fait, l'ancien système n'était que l'ombre de la réalité qu'il leur présentait, qui était la nouvelle façon d'adorer Dieu, de servir Dieu d'une façon présente et éternelle. Alors Paul, très sage, il va doucement. Hein, il était plus sage que moi. Moi, des fois, je vais un peu fort. Hein. Il y va doucement et il enlève pièce par pièce ce qui est le judaïsme pour le remplacer par quelque chose de plus excellent. Alors vous verrez que ce n'est que qu'au dernier chapitre, on peut dire, de cette épître aux Hébreux, de cette lettre aux Hébreux, qu'il dit carrément, qu'il dit qu'il est absolument nécessaire d'abandonner un ordre de choses qui a fini son temps. Voilà. Ce que Dieu avait dit autrefois par les prophètes, bon, maintenant c'est terminé, on passe à autre chose, c'est une nouvelle alliance en Jésus-Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Hein. Jésus a dit, voici mon corps, voici mon sang, de la nouvelle alliance. Voilà, donc c'est quelque chose, il dit, c'est une nouvelle alliance, l'ancienne alliance, c'est pourquoi on dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est la fin des temps pour ce système judaïque qui, en réalité, allait finir assez rapidement, c'est-à-dire qu'en 70 après Jésus-Christ, il y a eu la destruction du temple et donc impossibilité totale d'offrir des sacrifices tels que la loi de Moïse l'exigeait. Et Dieu est gentil de les avertir un peu avant quand même. Et de leur dire non, il ne faut pas continuer sur cette voie, vous ne pouvez pas continuer à croire que Jésus a offert un sacrifice et que vous, vous devez aussi faire la circoncision et toutes ces choses. Non, il faut choisir. Alors il leur explique qu'il faut sortir de ce vieux système pour être réellement avec Jésus hors du camp. Vous verrez que c'est une expression qu'il reprend lui-même en portant l'opprobre de Christ. Alors, il démontre absolument magistralement, vous allez le voir dans cette étude, que ceux qui restent attachés aux ordonnances du judaïsme ne peuvent pas participer à l'autel des chrétiens. C'est pas possible. Et il les avertit des terribles conséquences même qui résultent de l'abandon du christianisme après l'avoir connu. Alors Dieu est bon, comme je vous le disais, il prévenait les siens de se détacher, il leur donnait un temps pour se détacher avant que n'arrive la catastrophe en l'an 70 quand les Romains ont détruit Jérusalem, le temple et tout. La destruction de Jérusalem et surtout du temple, ça a mis fin aux ordonnances du judaïsme. C'était fini, c'était terminé depuis ce jour-là, c'est fini. Ils ont trouvé des trucs pour le grand pardon, ça n'est pas, ils ne sont pas selon les Écritures, vous voyez. Ils le savent. Hein. Alors, de nos jours, la situation est différente pour les chrétiens, issus des nations qui ne sont pas juifs. Les chrétiens qui sont des nations, qui ne sont pas juifs, n'ont pas à renoncer à un culte institué par Dieu, comme les juifs devaient abandonner un culte ancien qui avait été institué par Dieu. Les chrétiens issus des nations n'ont pas à abandonner un culte, une religion qui a été instituée par Dieu. Ils ont à renoncer à un culte qui n'a jamais été institué par Dieu et qui a commencé avec une secte qui existe toujours, qu'on appelle les gnostiques, c'est-à-dire avec des chrétiens qui ont mêlé le judaïsme avec le christianisme. Je résume la situation. Si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur Google, vous regardez Gnostique, vous allez voir tout de suite. De nos jours, les chrétiens ont à renoncer à la religion qui leur fait croire qu'ils peuvent choisir ou non de suivre Christ. On ne choisit pas. C'est Dieu qui nous choisit. Alors, il nous appelle au travers des serviteurs de Dieu, au travers des évangélistes. Mais c'est Dieu qui nous a élus dès avant la fondation du monde. Donc, si vous pensez que vous avez choisi le Seigneur Jésus-Christ, vous vous placez au-dessus de Jésus-Christ. Parce que c'est pas vrai, vous n'avez pas à choisir. Vous êtes appelé par, soit vous avez lu les Écritures, soit vous avez entendu un évangéliste prêcher, soit quelqu'un vous a parlé, soit vous avez lu. Mais vous avez été appelé comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous avez été élu. Ceux qui sont élus de Dieu le savent, le Saint-Esprit habite en eux, ils le savent. Mais ils ne se mettent en tout cas pas à la place de Dieu pour choisir. Voilà, moi je choisis. Alors, si vous choisissez, ça veut dire que Dieu peut être surpris de voir, ah bon, bah tiens, c'est bien, il me choisit, ah, je suis très honoré. Non, 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 non. Ce n'est pas vous qui me choisissez, dit Jésus, c'est moi qui vous choisis. Nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Bon, je passe, ce n'est pas le but de ma prédication. Alors, l'auteur de cette épître ne se présente pas, il ne dit pas qui il est. Je pense que son but, c'était d'attirer les regards de ses lecteurs sur Jésus, vers Jésus. Et il se place humblement au milieu de ceux qui ont eu depuis longtemps une relation avec Dieu au travers du judaïsme. On voit qu'il connaît très très bien son affaire, qu'il était judaïque avant à fond et qu'il observait véritablement la loi. Paul dit qu'il était extrêmement zélé pour observer toutes ces choses. Alors, quelle était la position des Juifs devenus chrétiens? Pour eux, à cette époque, le christianisme se soudait à une relation ancienne avec Dieu, parce qu'ils avaient une relation avec Dieu au travers du judaïsme. Mais pour les non-Juifs devenus chrétiens, c'est-à-dire pour nous, des nations, ben c'est tout autre chose, parce que les non-juifs n'avaient pas, avant leur conversion, une relation avec Dieu. Ils avaient une relation, excusez-moi, avec les démons. On va lire ça dans 1 Corinthiens 10, verset 20-23, où il est dit « Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, les gentils c'est les gens des nations, hein, c'est un terme pour dire les non-juifs. » Alors Paul dit, je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient au diable et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous entreteniez des relations avec le diable. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe du diable. Vous ne pouvez pas être participant à la table du Seigneur et à la table du diable. Pourquoi est-ce que vous provoqueriez la jalousie de Dieu? Êtes-vous plus fort que Dieu? On va approfondir ça. On va approfondir ça, c'est très important. 1 Corinthiens 10, 20, 23. Je vais vous dire des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Alors, où Paul veut-il en venir avec son introduction? En fait, après avoir lu la lettre qu'ils ont reçue, donc ces juifs judaïsants, après qu'ils l'aient reçue, ces juifs devenus chrétiens, mais encore judaïsants, comprennent que Paul leur écrit ça en fait. Il leur écrit, Dieu ayant parlé à nos pères à plusieurs reprises et de diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours d'Israël, par son Fils, Jésus, le Messie, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fondé toutes choses, les mondes et d'autres versions disent les siècles. Alors, Dieu nous a donné une révélation de lui-même et de ses desseins. Il l'a fait de deux manières successives, par les prophètes, et puis ensuite directement par son Fils. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Il a donné ça à nos pères, c'est-à-dire par les prophètes, Esaïe, Jérémie, Amos, Abdias, Jonas, voilà. Cela signifie que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 2, Paul dit « C'est aux Juifs qu'ont été donnés les oracles de Dieu. » C'est pas à nous les gentils, c'est pas à nous, Dieu ne nous parlait pas. Dieu nous laissait dans nos ténèbres, dans nos tâtonnements, mais il ne nous parlait pas. Il avait choisi ce peuple-là, le peuple juif, vous voyez ? Dans cet épître, Paul parle aux Juifs convertis, mais qui gardent encore l'ancienne religion, et pour nous qui sommes des nations, des gentils, Dieu ne parle pas de la même manière. Il ne nous parle pas à nous comme à eux. Il a d'autres choses à nous dire, mais qui sont aussi très importantes et qui ont des similitudes. Jésus nous est donné et nous avons à le suivre, lui, en renonçant à toute fausse religion dite chrétienne. Paul dit aux Juifs chrétiens que Dieu a parlé à leurs ancêtres à plusieurs reprises, de plusieurs manières, en leur donnant des révélations successives et progressives des choses qu'ils voulaient accomplir. Aujourd'hui, le message de Dieu au peuple des nations, au peuple des gentils, est très différent. Jésus est venu, voilà le message, Jésus est venu il y a 2000 ans, comme cela avait été annoncé par les prophètes juifs. 1. Vous n'avez pas à devenir judaïsant. Les chrétiens non-juifs n'ont pas à devenir juifs. Et 2. Vous n'avez pas à suivre la culture dite chrétienne de vos ancêtres. Parce que vos ancêtres se sont détournés du message simple de Jésus et de ses apôtres. Quelle relation y a-t-il? Oh non, je ne vais pas commencer à... je vais rester gentil. Quand les chrétiens se réfèrent aux lois de Moïse pour juger ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, il y a eu ce drame à Mulhouse. Le pasteur Peter Schmidt a fait une grande réunion avec plus de 2500 personnes et à l'époque il n'y avait pas encore le confinement, donc il s'est senti libre de faire ça et malheureusement des gens ont attrapé le coronavirus et puis il y en a qui en sont morts, lui-même a été atteint, le serviteur de Dieu Jean-Marc Taubois est décédé suite à cela, c'est très grave, c'est terrible. Mais ce qu'il y a de plus grave encore, c'est qu'il y a des chrétiens qui se permettent sur YouTube de dire que c'est la punition de Dieu contre cette église abominable, etc., etc., parce que il y a des choses qu'ils n'aiment pas dans cette église, alors ils jugent, ils condamnent et tout, mais Dieu est pas comme ça. Ça, c'était le Dieu d'Israël avant. Dieu qui tombait à bras raccourcis sur le moindre des pécheurs, à moins qu'il aille vite offrir un sacrifice, n'est-ce pas, au temple. Dieu ne tombe pas à bras raccourcis sur chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'est pas bien. Je ne dis pas que le pasteur Peter Schmidt a fait quelque chose qui n'était pas bien. Je dis simplement que on n'a pas à juger comme du temps des judaïsants, comme du temps des juifs, comme du temps de l'ancienne alliance. On n'a pas à se servir de l'Ancien Testament pour porter des jugements aujourd'hui. Et nous n'avons pas à recrucifier Jésus à chaque messe pour être pardonné. Parce que, en fait, la messe, c'est le sacrifice non sanglant, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez absolument. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est exactement. Voilà ce qui est écrit dans leur doctrine, dans la doctrine catholique. Le sacrifice de la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. C'est la définition du concile de Trente. Ils ont eu un concile et ils ont décidé ça. C'est la définition du concile de Trente. Et voilà cette définition. Dans ce divin sacrifice, donc la messe, le même Christ est contenu et immolé d'une manière non sanglante, celui qui autrefois s'est offert d'une façon sanglante sur l'autel de la croix. C'est le même. Ils disent, le concile continue en disant, « Nous confessons que le sacrifice de la messe est le même sacrifice que celui de la croix. » Mes petits enfants. Et ils continuent, « Car la victime est la même, à savoir le Christ, notre Sauveur, qui s'offrit lui-même comme sacrifice sanglant sur l'autel de la croix. La victime sanglante et non sanglante est la même dont le sacrifice est renouvelé chaque jour dans la Sainte Eucharistie. » Eh bien, mes cadets, lisons maintenant ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, 28, j'espère que vous le trouvez rapidement, avec cette Bible. La Bible dit que Jésus-Christ s'est offert une fois pour toutes, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de renouveler ce sacrifice. Ainsi, Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup. Amen. Et vous me dire, oui, mais il n'y a qu'un passage dans la Bible qui le dit. Non, il n'y a pas qu'un passage dans la Bible. Il y a Pierre aussi qui le dit dans 1 Pierre 3, 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il puisse nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivifié par l'esprit. Donc, Jésus-Christ a été crucifié une fois et on n'a pas à renouveler chaque jour son sacrifice en faisant la messe. C'est une abomination. La foi des Hébreux, devenus chrétiens, était devenue fausse, et c'est ce que Paul leur explique dans son épître, et la foi des chrétiens des nations, la foi des gentils, est devenue fausse, et c'est ce que je vous explique avec ce cours des Saintes Écritures. Si les Hébreux chrétiens croyaient encore dans les lois de Moïse, ils annulaient le sacrifice unique et parfait de Jésus, en disant « Non, mais il faut faire encore ci, il faut faire encore ça, et que ceci, et que cela, se faire circoncire. » Et si les chrétiens issus des nations croient qu'il faut resacrifier Jésus, renouveler le sacrifice de Jésus chaque jour sur l'autel de la messe, eh bien, ils annulent le sacrifice unique et parfait de Jésus sur la croix. Ils ne croient pas vraiment que ce sacrifice est suffisant, puisqu'il faut le renouveler. Les deux positions sont abominables, celle des juifs chrétiens et judaïsants, et celle des gentils qui restent avec leur vieille religion qui a déraillé. Les deux positions tiennent pour nul ce que Jésus a fait à la croix. Son sang a été versé une fois pour toutes, et bien son sang qui a été versé pour vous, par amour pour vous, quand vous renouvelez le sacrifice, quand vous allez à la messe et que vous prenez l'Eucharistie, vous, sans savoir, vous foulez aux pieds le sang de Jésus qui a été versé une seule fois pour le pardon de nos péchés. Et pourtant vous êtes sincère, et pourtant vous êtes croyant, et pourtant vous aimez Jésus. Mais si vous aimez Jésus, Jésus a dit un jour, si vous m'aimez, faites ce que je vous commande, mon Dieu. Vous voyez ? Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, je crois que déjà je vous ai assez choqué comme ça. Réfléchissez, priez, mettez-vous devant Dieu, que le Seigneur vous éclaire. Vous savez, la France passe par un moment difficile, on ne sait pas comment ça va tourner. Vous avez tout intérêt à vous tourner vers Dieu, mais de façon complète, totale, véritable, en vérité, selon les Écritures saintes et non selon la tradition humaine. Par la tradition humaine, vous annulez la véritable foi qui provient des Écritures. Faites attention, c'est votre éternité, mes frères et sœurs. C'est votre éternité. Je ne peux pas vous prêcher autre chose. Alors, prenez soin de vous. Ne sortez pas de chez vous, restez tranquille chez vous. C'est le confinement, on ne sait pas encore pour combien de temps. Je pense qu'on va rester bien un mois et demi confiné comme ça à la maison. Et puis, occupez-vous de votre âme. Lisez votre Bible. Lisez-la. Ne me dites pas, j'ai pas de Bible. Vous pouvez la trouver sur Internet. Vous m'écoutez sur Internet, là. Sur Internet, il y a des Bibles complètes. Vous pouvez lire la Bible sur Internet, même si vous n'avez pas le livre en papier. Vous pouvez... Et puis alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est la bonne Bible ? Arrêtez, je vous en supplie. Il n'y a qu'une Bible qui est vraiment pas bonne, c'est celle des témoins de Jéhovah. Mais à part ça, elles sont bien... Il n'y en a aucune qui est parfaite dans le sens que, avec les traductions, il y a des fois, c'est un peu compliqué, vous avez des Bibles qui vous disent l'être ailé, puis d'autres vous disent l'oiseau, mon Dieu, on comprend, il n'y a pas d'erreur, il y a juste des interprétations, des mots différents, mais bon voilà, ne faites pas la fine bouche, lisez les Écritures, soyez inspirés par les Écritures, que le Saint-Esprit vienne à votre secours et vous aide. C'est des moments difficiles, on ne sait pas comment ça va tourner, on ne sait pas. Alors, veillez à votre corps, mais veillez aussi à votre âme et votre esprit, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs, de les aider à prendre position fermement, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Au revoir.